encore un témoignage. Et c'est des témoignages qui sont visibles. Alors ça, on peut les retrouver facilement sur Internet. Hein. Voilà. Et c'est, si tu veux, c'est suite à cet ouvrage. Je leur dis bravo, hein, ces trois auteurs. Oui, vraiment, ils ont eu... je n'ai pas le courage, parce qu'il ne faut pas beaucoup de courage. Il faut être juste honnête, d'avoir eu l'honnêteté, en tous les cas. Voilà, l'honnêteté intellectuelle, d'avoir eu cette idée que de monter cette... de faire cette enquête, qui est très importante.
Oui.
Parce que souvent, on entend des jeunes femmes... des jeunes hommes qui ils sont fatigués, ils sont usés, ils parlent plus maintenant. Donc certains décident de partir. Mais longtemps, ils se sont plaints en disant il y a discrimination, personne ne les écoutait, en disant non, il n'y a pas de racisme, c'est faux, en France, ça n'existe pas. On ne dit pas que la France est raciste, mais il y a des racistes. Et ça, les médias sont derrière aussi, certains qui poussent. Certains représentants de certains partis politiques également, qu'on voit un peu trop souvent à la télévision. Et tout ça bah, fait que bah, ça fait boule de neige. Hein. Ça fait boule de neige. Et voilà, aujourd'hui, le bilan, le résultat de tout ça. C'est ça. Ouais. On a une pause, hein, c'est ça? Non, pas encore. Voilà, je me suis dit.
Et du coup, moi, je me remets en question à chaque fois que je rentre à la maison. Je me dis, est-ce que c'est moi le problème? Je me dis, est-ce que c'est physique? Je me dis, est-ce que c'est... Alors que quand je me présente quelque part, je suis hyper bien, sans me vanter, quoi. Je m'apprête vraiment bien, tu vois. Et même ma mère, elle comprend pas. Quand je lui en parle, elle me dit, bon, t'inquiète pas, ça va aller. Elle essaie de relativiser à chaque fois. Mais je veux dire, je me remets en question. Je me dis, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que... C'est frustrant, c'est vraiment extrêmement frustrant, surtout quand tu as des diplômes et que tu as étudié pour et que tu as d'expérience aussi, parce que j'ai commencé très jeune le monde du travail. Donc voilà, ils préfèrent prendre quelqu'un d'une autre origine, enfin je veux dire un Français ou une Française qui est moins qualifié qu'une personne, tu vois, qui est mieux qualifié, mais d'origine maghrébine.
Oui.
Voilà.
Oui, je suis complètement, parce que en même temps, je regarde les il y a des personnes qui veulent. Tu veux que je te garde un petit peu avec nous pour un débat?
Bien sûr, avec
ok, ne pars pas. Chemsedé, ne pars pas. On va prendre Faïza là tout de suite. Alors je vois un des résultats de l'enquête, c'est la très grande diversité des rapports à l'islam et à la religion dans cette enquête. Hein, c'est l'enquête qui a été faite pour le livre, quoi. On aurait pu faire l'hypothèse qu'il s'agissait de gens particulièrement religieux. Par exemple, on aurait pu imaginer, ouais, parce qu'ils sont très, voilà, et tout ça, visible et tout. Certains le sont, oui, religieux. D'autres, beaucoup moins, et même certains, pas du tout. Enfin, même si la majorité est née en France, il y a un certain nombre de binationaux, marocains, algériens, turcs, etc. Voilà. Alors, on va accueillir Faïza, qui nous appelle de Suresnes. Bonsoir, Faïza.
Bonsoir.
Bonsoir, ma Faïza, bienvenue.
Merci. C'est un sujet qui motive à appeler.
Ah, très bien.
Ah oui, normalement, il devrait plus avoir plus d'appel. Sachant que le racisme en ce moment en France, c'est démocratisé en fait.
Oui.
Il n'y a plus avant, on le ressentait, mais pas autant. C'était plus caché. Comme disait Karim au niveau du Japon, de la xénophobie, effectivement, ils pensent ce qu'ils veulent, mais ils ne le disent pas en fait. Ils le gardent chez soi.
Oui.
En France, non, maintenant, c'est devenu normal de dire sale arabe, sale noir, sale. Ah, bah, de toute manière, vous, les musulmans, c'est toujours pareil. Vous nous imposez le voile, vous nous imposez le ramif, vous nous imposez plein de trucs. Et vous nous imposez votre ramadan. Parce que parfois, dans les sociétés, ils sont soi-disant gênés de manger à côté de nous, alors que nous, on ne demande rien, en fait. C'est pas grave. Nous, on le fait. Ça nous concerne. Mais quand il y en a, ils boivent, ils disent « Ah, pardon, excuse-moi, j'avais oublié que tu fais le ramadan. » En fait, je t'ai pas demandé de pas boire. Moi, je le fais toute seule. Regarde, ça me dérange pas que tu boives ou que tu manges à côté de moi. Et ça, en fait, ils sont assez stupides. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, tu disais que les jeunes, de plus en plus de jeunes veulent partir. Mais il n'y a plus que des jeunes. Même moi, à mon âge, j'ai envie de partir. Moi, demain, si je pouvais partir, je partirais.
Oui, ben oui, tu sais que l'enquête, alors, commence par dire... Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Écoute bien, justement, tu sais pas si bien dire. Paf, 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 paf. Oh, faut que je retrouve l'article. Alors écoute, ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais croisés. Les mots sont pourtant les mêmes. Les sentiments partagés, le désarroi, l'impuissance, l'amertume, la colère, la tristesse. Qu'ils aient 30 ans ou 70 ans, banquier d'affaires, agent de service public, ingénieur, professeur ou artiste, ce sont des citoyens français bien installés, comme ils disent, de confession musulmane et d'origine arabe aussi. Et ça, en France, c'est la double peine, d'autant plus depuis le 7 octobre 2023, date de l'attaque du Hamas en Israël, lance Ismaël, 59 ans, peintre parisien. Ça, c'est dans l'article. Hein. Voilà. Mmh. Alors ça, on peut le retrouver aussi dans Le Monde qui a repris. Voilà.
Ouais, non, mais c'est une réalité.
Ben voilà. Alors, c'est donc, que tu sois pratiquant, pas pratiquant, peut-être pas du tout croyant, tu t'appelles Shemseddin, comme il nous le dit, Shemseddin, qui est de père portugais, de mère algérienne. Bon, mais Shemseddin, sa mère est algérienne, et voilà. Alors donc, que tu sois pratiquant, pas pratiquant, tout ce que tu veux, à partir du moment où on te met dans une case, pour certains, je dis pas, c'est une généralité, mais on en a marre de tout le temps justifier à dire c'est pas une généralité, c'est pas une généralité, mais on a peur que ça se généralise.
Ça puisque, devient une généralité. Bah,
puisque tout le monde, puisque beaucoup de jeunes se plaignent et beaucoup partent, il y a des cerveaux qui s'en vont. T'as des jeunes qui ont des diplômes et qui font des projets ailleurs. C'est qu'il y a un problème. Et ils sont formés en France, dans les écoles françaises. Mais le plafond de verre est là pour leur rappeler leurs origines. C'est terrifiant, ou leur religion. C'est terrible.
Après, tu te demandes si c'est pas fait exprès non plus. On en devient parano. On se dit, bon, bah voilà, l'idée, c'est que tout le monde s'en aille. Parce que la France ne retient pas non plus les diplômes.
Donc, alors, on parle de pays, justement, où les gens se replient. Donc il y a le Canada revient souvent, l'Angleterre, les autres pays de
aussi.
Voilà, les autres
ouvert,
voilà, les autres pays de d'Europe, l'Espagne, tout ça reviennent également, l'Angleterre, même les États-Unis hein, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, etc. Oui. Même les États-Unis. C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai lu le comment on appelle ça, le témoignage de ce jeune garçon alors Driss, je crois, d'origine algérienne, mais français, voilà, qui part au Canada. Alors qui dit au Canada, ici, il dit c'est un peu la mentalité américaine. Tant que vous ramenez de l'argent, tu vois, tu travailles, c'est comme partout normalement, tu vois. Ici, c'est comme si tu ramènes de l'argent. Non, on veut pas que tu nous ramènes de l'argent parce que tes zones d'origine nous dérangent. On va prendre quelqu'un de moins compétent qui ramènera moins, mais au moins on verra pas ta tronche, quoi, tu vois. Entre guillemets, hein, pour certains, je dis bien. Hein. Donc il dit, sous-entendu, alors il dit, tant que vous ramenez de l'argent, du Canada, tout le monde s'en fiche. Vous pouvez afficher votre religion sans gêne, hein, y a pas de problème. Il dit, ce n'était pas le cas en France. Tu vois, parce qu'il est parti, il est au Canada maintenant.
Mais normalement, c'est le propre d'un pays, en fait, de faire tourner son économie.
Ouais.
La France, si elle n'était pas non plus axée sur l'islam tout le temps, je pense que l'économie, à un moment donné, irait mieux. Bientôt, la baguette, elle va encore augmenter. Ils vont dire, c'est la faute des musulmans. C'est tout un truc qui fait que...
Mais oui, et puis d'un fait divers, bah, ils font toute une stigmatisent toute bien une ça. Communauté religieuse, etc. On va creuser pour savoir si la personne qui a commis tel fait, elle est vraie, elle est de telle religion, etc. Actuellement, il y a un fait divers de ce qui s'est passé, malheureusement, pour ce jeune Matisse.
Oui.
Paix à son âme, vraiment, qui nous a touchés et vraiment profonde, vraiment penser à ses parents et qu'il repose en paix, ce pauvre garçon. Eh bien, par ce jeune garçon qui est d'origine afghane, il aurait pu être de n'importe quelle origine, parce que la bêtise, elle est malheureusement, et la criminalité est partout.
Bien sûr.
Le père, qui est restaurateur dans sa ville, alors vraiment, si nos paroles puissent lui arriver, je tiens vraiment à lui faire, mais vraiment la révérence, et lui dire bravo monsieur, bravo votre fils qui repose en paix, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur à vous et à toute la famille vraiment beaucoup de courage pour surmonter cette épreuve tellement difficile. Est vraiment un doux euphémisme, hein. C'est pire que ça, le mot n'existe pas, c'est compliqué comment que ça s'est passé pour son fils de 15 ans. Mais bravo, bravo à vous monsieur, vraiment votre fils là où il est, il peut être fier de vous. Tu sais ce qu'il a dit le père? Non, et ça, ça les a dérangés sur certaines chaînes, parce que moi, alors là, je regarde, tu vois. Le père, il a dit, le père de Matisse refuse aussi toute récupération politique de l'extrême droite. Moi, je reprends ses paroles, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors donc, je reprends. C'est le père de Matisse qui dit, le père de Matisse refuse, et on peut le retrouver dans le Parisien, hein, ce qu'il a dit. Hein. Le père de Matisse refuse aussi toute récupération politique de l'extrême droite et spéculation sur l'immigration liée à la nationalité afghane du jeune mis en cause et de sa mère. Ce n'était tellement pas Matou, en parlant de son fils. Ouais. Il dit, parce que mon fils n'était pas comme ça, donc voilà. Alors, donc il refuse toute récupération. Il faut le faire, hein, il est en plein dans la douleur, ça vient d'arriver.
C'est clair.
Il vient de perdre son fils de 15 ans, t'imagines de quelle manière? Une manière barbare.
Il aurait pu, justement.
Bah oui, il aurait pu dire, non mais attendez, bah, enfin, tu vois ce que je veux dire. Dans sa grande douleur, dans là, en ce moment, alors que, je veux dire, il a gardé ses esprits. Il a gardé ses esprits et son bon sens, vraiment, et son humanité. Ce père de cet enfant qui est mort dans une mare de sang, dans une barbarie, qui a gardé quand même toute son humanité, son intelligence en disant qu'il refuse toute récupération politique et spéculation sur l'immigration liée à la nationalité afghane. Parce que celui qui a tué son fils, il est afghan. Mais malgré ça, il dit, je ne veux pas qu'on spécule sur l'immigration afghane. Parce qu'il sait qu'il y a des afghans qui, malheureusement, les pauvres, ils y sont pour rien. S'il y en a un qui est tordu, tout le monde n'est pas tordu. C'est vrai ou pas?
C'est ça.
Bah attends, quand il y en a un qui enlève une petite fille, qui la viole, qui la tue, qui la massacre, on met pas toute une communauté ou voilà.
Exactement. Les Français sont pas des
voilà, ou tous les
Nordal-Nolandais.
Voilà, personne ne fait des généralités. Il faut vraiment être un imbécile, un âne batté pour faire des généralités. Et cet homme a gardé tête froide. Le père de Matisse a gardé tête froide. Il dit, je ne veux pas. Alors ça, je le répète encore une fois. Il dit, il refuse toute récupération politique de l'extrême droite et spéculation sur l'immigration liée à la nationalité afghane du jeune mis en cause et de sa mère. Voilà, il fait la part des choses. C'est ce garçon qui va être jugé, voilà ce qu'il veut le père. Ce garçon va être jugé avec sa mère, mais la communauté afghane, vous la laissez tranquille. Et voilà, la religion musulmane, vous laissez les gens tranquilles. C'est ce qu'il dit le père. Il était obligé de dire ça parce qu'il connaît. Il sait qu'il y a des imbéciles qui vont derrière, voilà, qui vont spéculer, qui vont justement récupérer. Voilà.
Donc,
il faut lui envoyer des messages à ce papa, hein, de condoléances et de remerciements. Hein. T'es ça, vraiment. Ah oui.
Mais pour en revenir au Canada, ils ont quand même un premier ministre qui, quand commence le ramadan, souhaite à la population,
oui,
à la télé, le ramadan, un bon ramadan. Et quand il termine le ramadan, il souhaite à la communauté, à la télé, un bol à aide. Donc déjà, quand tu vois ça, tu te dis, ah ben, c'est bien.
Franchement,
nous, jamais. Mais jamais, nous, on aura ça. Mais jamais de la vie. Et même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, je ne crois plus au fait que la France, à un moment donné, redevienne ce qu'elle était potentiellement un petit peu. Bon, elle y était un petit peu, moi, dans ma jeunesse. Il y avait des... Moi, mon père, il s'est fait traiter de sale gougnoule. Il y avait des choses, mais c'était pas autant. Là, c'est de plus en plus. Et chaque mois, il y a un truc. Chaque jour, il y a un truc. À un moment donné, on essaye de se battre, mais battre contre qui? Soit on capitule, on s'en va. Et c'est ce qui se passe. Jusqu'au moment où la France, effectivement, tout le monde va partir. Ils vont se dire, ah ben non,
bah, l'élite musulmane, déjà, voilà, on voit.
Mais même pas que l'élite, hein. Même pas que l'élite.
Oui, mais déjà, ça commence comme ça, tu sais, ça commence toujours par l'ouvre. Hein, ouais.
Mais c'est pareil, les ouvriers, à un moment donné, ils vont partir. Parce que tout le monde en a marre. Hein.
Ah ben tu l'entends à l'antenne, on a des jeunes, hein, Faïza, qui appellent de temps en temps, hein, dans l'émission en disant, bah ça y est, je pars, des jeunes qui ont des projets en Algérie, au Maroc, dans leur pays d'origine, tu vois, qui disent, voilà, je pars, j'ai des projets là-bas.
Oui, ils n'ont pas forcément fait d'études, mais ils partent.
Ils partent, ouais.
Et, mais le problème, c'est qu'effectivement, à un moment donné, tout le monde va partir. Et qui va faire les petits boulots aussi? Et oui. Donc en fait, on a vraiment l'impression qu'on nous pousse à bout pour qu'on parte, en fait. Et c'est ce que ressentent la plupart du temps les musulmans. Et il y en a beaucoup qui vont repartir dans leur pays d'origine. Moi, la première. Donc voilà. Et pourtant, je suis pas jeune.
Alors moi, je. Alors regarde leur étude, l'étude de ces chercheurs, parce que c'est des chercheurs. Hein. Donc leur étude s'appuie sur plus de 1000 témoignages de personnes nées. Tu sais, c'est un échantillonnage. Mais c'est bien, hein, parce que c'est à partir de là, c'est comme ça qu'on fait les sondages d'ailleurs. Donc sur plus de 1000 témoignages de personnes nées, qui sont nées en France et qui ont grandi en France, mais qui un jour ont choisi de partir. Quasiment toujours la mort dans l'âme. Tous sont de confession musulmane, qu'ils s'appellent Smaïl, Karim, Khalid, Nouria ou encore Emeline. S'ils sont partis, la plupart du temps, c'est pour qu'on leur fiche la paix avec leur religion, vulgarise un des co-auteurs, Olivier Estève, professeur spécialiste du monde anglophone à l'Université de Lille. Terrible, hein ?
Oui, mais ça, c'est une réalité, hein. C'est qu'on en a marre.
Voilà, tu vois, ils disent, et de cette enquête, donc, il ressort de cette enquête deux motivations principales pour justifier le départ. 71% des personnes interrogées évoquent le racisme et la discrimination. Et 63% avancent spontanément la difficulté de vivre sereinement, leur religion.
C'est ça.
Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, ça s'est amplifié. Je l'ai lu, hein, c'est aussi dans les témoignages. Vous remarquerez que sur les plateaux télé, si on invite, quand on invite des personnes d'autres confessions, peu importe, hein, chrétiens ou athées, ou on s'en fiche, de n'importe quelle confession, on va leur poser des questions, je sais pas, du jour, hein, des questions sur la politique, sur tout ce que vous voulez, enfin voilà. Mais quand il y a un musulman, un nom à consonance musulmane, dont par exemple Karim Zeribi pour ne pas le nommer, et d'autres, quand ils sont sur les plateaux, qu'est-ce qu'on va leur poser comme question? Mais est-ce que vous condamnez le Hamas, ce qu'ils ont fait, etc. Est-ce que vous condamnez le Hamas? On pose la question tout le temps, cette question revient toujours au même. Pourquoi on ne pose pas la question à des personnes qui ne sont pas musulmanes? Si on veut être juste, on pose la question à tout le monde. Et puis je vais même dire, c'est un pléonasme. Qui ne condamne pas? Qui ne condamne pas une barbarie, une tuerie, un massacre d'enfants et de civils? Mais bien sûr qu'on n'a pas besoin de le chanter sur les toits, que tous on a condamné. On pleure tous les enfants. Un enfant juif qui a été massacré. Comment? Quel est le cœur humain qui ne va pas qui n'est pas déchiré, qui ne va pas pleurer avec la maman? Mais bien sûr, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça nous a meurtris. Mais bien entendu, c'est des civils. Il y a des enfants. Mais ça ne va pas. Ça va sans dire. On n'a même pas besoin de poser la question. J'ai posé la question, c'est comme si vous avez, la personne, elle a des doutes, il y a une suspicion qu'on n'aurait pas de cœur, on choisit.
C'est pas comme ça.
Oui, il y a de quoi pousser un coup de gueule. C'est horrible de poser ce genre de questions. Parce que d'abord, un musulman qui croit en sa religion, bien entendu que tous les enfants, les créatures de Dieu, eh bien, il en est affligé quand il leur arrive quelque chose. Il est touché au plus profond de son âme. Tout musulman est touché. Pourquoi? Parce que c'est des créatures de Dieu, c'est ses frères en humanité. Vous n'avez pas besoin de lui poser la question. C'est d'une absurdité phénoménale. Et on pose tout le temps la question, est-ce que vous condamnez le Hamas? Oui, bien sûr qu'on n'a pas besoin de le dire, qu'on condamne. Bien sûr, on condamne tous les massacres d'enfants, on les condamne. Tous les terroristes, on les condamne. Tous les massacreurs d'enfants, on les condamne. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ce que vous voulez. Bien sûr, mais voilà. Mais c'est tout le temps, on pose la question, tout le temps au même. Comme si par hasard, voilà, c'est suspicieux. Non, vous condamnez pas, mais ça va pas. Pourquoi un musulman, c'est un père de famille aussi, il a des enfants. Quand il regarde à la télévision qu'il y a des enfants qui ont été massacrés, son cœur se déchire. Mais pour autant, on a le droit aussi de dénoncer les massacres d'enfants palestiniens et de civils. Non, c'est-à-dire que il faut dénoncer toutes les cruautés, dénoncer toutes les injustices. Nous sommes tous frères en humanité. On n'a pas 10 cœurs, on n'a pas 30. Voilà, il y en a un, on l'a mis en berne et l'autre il est en éveil. On a un seul cœur. Il pleure tous les enfants, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, on s'en fiche de ce qu'il est. C'est un enfant de la vie, on le pleure.
Ah mais toi t'as un seul cœur, voilà. Mais eux non. Eux ils vont pas pleurer pour le petit palestinien qui est mort. Ils vont plus pleurer de l'autre côté. Mais bon après ça c'est leur choix à eux.
Tu parles sur les plateaux?
Oui, oui, je parle sur les plateaux, non, je parle pas de tous les Français, hein, non. Je parle sur les plateaux. Les plateaux, on voit bien que c'est toujours stigmatisé. Comme par exemple, demain, il y a un attentat d'une personne de notre confession musulmane. Ils vont dire c'est un terroriste. Le lendemain, il y a un autre attentat d'une autre confession. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un individu. Alors que les deux sont des terroristes. Ils ont tous les deux fait des attentats.
Et puis voilà, et puis encore une chose, c'est que quand il y a des attentats qu'on a connus en France en 2015, que ce soit à Paris, que ce soit à Nice, le 14 juillet, et à Paris, les terrasses, Bataclan, tout ça et tout, parmi les victimes, bah, il y avait des musulmans, il y avait de tout. Parce que les terroristes ne regardent pas la religion. Les terroristes, c'est pas des... Comment leur expliquer qu'un terroriste, il est sorti de son humanité, qu'il ne croit plus en rien? Parce que quand on ôte une vie, eh bien, on croit plus en rien. Et qu'il n'est pas musulman. On a le droit de pas reconnaître que les terroristes ne sont pas musulmans. Eh bien, on le dit qu'ils ne sont pas musulmans. Les terroristes tuent n'importe qui. Et ils tuent des musulmans.
Oui,
en Algérie, il y a eu 200 000 morts. Voilà, et c'était des terroristes. Nous, on les appelait des terroristes en Algérie. On disait pas des musulmans. Voilà. Pourquoi? Parce que
c'était pas des terroristes, parce que c'était entre nous.
Ben oui. Ben,
combien de fois je l'ai entendu? Ah oui, mais ça, c'est entre vous.
Oui. Ben non, c'est pas. Quand ils ont tué ici dans les au Bataclan, etc., et sur les terrasses. On a des amis. Moi, j'avais une amie qui s'appelle Jamila Persona, mais avec son mari, avec il tenait le. Comment il s'appelait ce restaurant? Justement, cette terrasse. C'était un anniversaire. Et ben sa sœur m'appelle à l'antenne pour m'apprendre de Dreux, parce qu'ils sont de Dreux. Elle m'appelle pour me dire, tu sais, Jamila, quoi? Je tombais des nues. C'était la même semaine quand ça s'était produit. Voilà. Donc voilà, il y a des musulmans qui meurent à Nice.
En septembre, il y en a eu.
Oui. Et à Nice, à Nice, quand il y a eu le 14 juillet, le jour du 14 juillet, quand les enfants sont sortis, les familles, tout ça, pour voir le feu d'artifice, eh bien, ce terroriste qui leur a foncé dessus avec son grand camion. Il y avait des musulmans parmi eux, et la première qui a été touchée, qui est morte,
c'était
une femme d'origine marocaine, une grand-mère marocaine qui s'appelait, je crois, Fatima. Donc voilà, ils regardent pas les origines. Alors eux ne se mettront jamais ça dans la tête, parce qu'ils savent au fond d'eux. Mais en vérité, pour stigmatiser un terroriste, ça reste un terroriste. C'est pas un musulman, parce qu'il est sorti de son islamité, il est plus musulman. Parce que dans le Coran, qu'il le veuille ou pas, c'est écrit. S'ils savent pas lire, c'est pas de ma faute. C'est écrit, celui qui ôte une vie, dans le Coran, celui qui tue un homme, tue l'humanité. C'est pas nous qui le disons, c'est marqué dans le Coran. Donc si c'est inscrit comme ça, dans le livre saint, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, tuer un homme, ils ont pas dit tuer un musulman. Il n'y a pas marqué si tu tues un musulman. Il y a marqué celui qui tue un homme, un être humain, il a tué l'humanité. Un être humain, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, etc. Mais non. Donc là, stigmatiser comme ils le font, mettre en avant tout le temps, mélanger, faire ce genre d'amalgame entre terroriste égale musulman, musulman égale terroriste. Ça va un moment. Ben voilà, la fuite de tous ces jeunes qui font des projets, qui partent à l'étranger.
C'est à cause de ça, en fait.
Déjà qu'on manque de médecins en France, hein, dans les hôpitaux. Et dans les campagnes, il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins dans les campagnes. Tu sais qu'il y a beaucoup, justement, issus de l'immigration qui partent s'installer. On a vu dans des reportages. Donc il n'y a plus. En France, on manque de médecins, on manque de. Voilà. S'ils partent, voilà.
Ils nous poussent à partir. Comme disait dans le livre que tu. Déjà, la personne qui est partie au Luxembourg. Elle a sûrement triplé, et j'exagère pas, elle a dû tripler son salaire.
Comment?
C'est certain. C'est certain.
Ah oui.
Parce qu'ils ont même pas honte de payer.
Mais même pas, tu te rends compte sur combien j'ai lu? Je sais plus, j'ai lu l'article. 70. 70 CV la personne a envoyé. Rien. Rien, j'ai rien.
Et là, elle a envoyé.
Au Luxembourg, trois rendez-vous.
Bien sûr. Parce qu'ici, en plus, même en France, ils n'ont même pas honte pour diplôme égal. Ils vont avoir. Ils vont payer un tout petit peu plus que le SMIC, la personne de confession musulmane. Et l'autre, ils vont lui tripler ou voire doubler son salaire. Mais sans aucune honte, en fait. C'est plus du tout caché. c'est même plus. Et puis, aux limites, ce que disait Samchadine tout à l'heure, je pense qu'il est moitié algérien, moitié portugais.
Oui.
Je pense que s'il avait un prénom portugais, malheureusement, ça se passerait beaucoup mieux pour lui. C'est certain.
C'est terrible hein, d'en arriver là. Terrible. Hein.
Mmh. Oui, c'est une réalité malheureusement. Et je ne sais pas si... Alors bon, moi je suis quand même de nature optimiste.
Alors, tu as Alice Picard qui est chercheuse et qui a participé justement à l'écriture du livre, qui dit... pourtant, de nombreuses personnes interrogées mettent en avant un climat pesant, comme les débats sur le voile ou la baya. C'est vrai que dès qu'il y a un attentat, dit-elle, pour la reprendre, c'est elle qui parle, dès qu'il y a un attentat, cette population doit donner plus que les autres des preuves d'allégeance à la République et à la laïcité. T'imagines?
Et déjà, quand il y a un attentat, hein, malheureusement, on se dit, pourvu que ce n'est pas quelqu'un qui
oui,
de confession mais, musulmane.
Mais
c'est grave de se dire ça.
Mais c'est. Oui, peu importe. Normalement, peu importe.
Normalement, c'est, peu
voilà,
importe,
la personne. Voilà, c'est l'horreur qui.
C'est
et tout à l'heure, je disais sur les plateaux.
Oui.
Sur les plateaux. Voilà, voilà, tu vois, regarde. Elle dit bien, dès qu'il y a un attentat, cette population doit donner plus que les autres des preuves d'allégeance à la République et à la laïcité. C'est-à-dire que nous, on doit plus faire, toujours plus pour.
Alors que normalement.
Je vous jure que je. La République, je vous jure que. C'est effusant. Et sur les plateaux, depuis le 7 octobre, c'est ce qui s'est passé malheureusement pour ces pauvres victimes dans les kibbutz, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Sur les plateaux, dès le lendemain, eh bien, on a vu. Chaque fois qu'il y a un qui s'appelle comme Karim Zeribi, par exemple, Karim Zeribi, pour le reprendre, parce qu'il n'y en a pas des masses hein, qui passent. Hein. Et donc, ou un Kamel, ou je ne sais pas, Mohamed, ou je ne sais. Eh bien, à chaque
fois. Plutôt Karim Zeribi qui passe tout le temps.
La question sur les plateaux qui revient aux, entre guillemets, pseudo-musulmans, on ne sait pas si les personnes sont musulmanes, dans tous les cas, elles sont de culture et et de naissance. Eh bien, c'est tout le temps, mais ça, tout le monde l'a remarqué sur les plateaux. Oui, mais alors tout le monde lui tombe dessus, hein, surtout sur certaines chaînes, tout le monde lui tombe dessus. Mais est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez le Hamas qui s'est passé? Est-ce que vous condamnez? Mais dites-le. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, cette hystérie. Qu'on condamne les. On n'a pas besoin de le dire qu'on condamne, on est des êtres humains. Bien sûr, ces enfants, vous croyez qu'on n'a pas pleuré? Moi, quand je regardais la télévision, je pleurais. À chaque fois, je vois des enfants, peu importe de quel bord, je pleure. Et tout le monde est comme moi, tout le monde. Comme toi aussi, comme nos mères, comme tout le monde.
Oui, bien sûr.
Oh.
Mais je pense que ça s'est accentué aussi via le 7 octobre.
Oui, c'est ce qu'il
y avait déjà une autre affaire qui a lancé le truc. Alors, ça a commencé par le petit Naël. Ensuite, il y avait en septembre la Abeya. Et puis après, il y a eu le 7 octobre, et là, voilà quoi. Là, c'est parti.
Avait droit, avant le 7 octobre, tous les jours, le voile, le foulard, l'abaya, le foulard. On avait droit à ça tout le temps. Et puis après,
il y avait le 7 octobre.
Le 7 octobre, malheureusement, encore une fois, de la récupération sur des malheureuses victimes, tu vois.
Bien sûr.
Ouais. Faisa, ne pars pas ma chérie. On a Morad aussi qu'on va prendre. On a Morad, Abdel, Alpha, Metz. Au 01 53 48 et Cédric aussi. Au 01 53 48 3000. Ne partez pas, on a une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, chers amis. Alors, le sujet de ce soir, mais écoutez, je ne vais pas vous le répéter, on le connaît par cœur. La France n'a pas voulu de nous, les musulmans diplômés victimes de discrimination, s'expatrient. Alors, on était avec Faïza. Faïza, ne pars pas. Ne pars pas, on a Morad. Morad du 91. Bonsoir, Morad.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, merci. Morad. Ça va, et merci. Vous? Et toi, plutôt?
Ça va très bien, merci. Oui, donc, je voulais intervenir
bien sûr.
Au sujet. Vous avez élaboré, discuté de plusieurs sujets. Vous avez discuté de la sécurité.
Pas de la sécurité, non.
Concernant le crime odieux qu'il y avait eu concernant les Afghans, le papa qui a
Ah oui, non, mais ça, c'était au passage, c'était vraiment pour le mettre à l'honneur, pour dire que vraiment, quelle dignité. Quelle dignité, vraiment. C'est magnifique, cet homme. Hein. Dans sa douleur, il a eu la présence d'esprit, quand même. Waouh!
Il a raisonné comme une personne intègre et je dirais oui, tout à fait intègre, parce que la sécurité elle est mondiale. Elle n'a pas de race, elle n'a pas de religion.
Mais oui.
Voilà, donc on va dire que quelque part c'est compréhensible sa façon de réagir. La douleur est là, mais donc voilà. Il a dû faire la part des choses politiquement. Parce que politiquement,
oui, parce qu'il les connaît.
Il y a énormément de récupération politique.
Ouais.
Voilà. Donc concernant le départ des musulmans
c'est une gifle magistrale qu'il donne à certains, justement, qui récupèrent et qui attendaient justement le moment venu pour faire de la récupération autour des plateaux et pas du tout être dans la compassion de ce pauvre garçon et de cette pauvre famille, mais juste voilà, pour taper sur qui on sait. Mais lui, il les a pris de court.
Voilà. Mais bon, je pense que c'est une personne qui a une certaine éducation, qui est cultivée, une personne qui a dû voyager, connaître les autres cultures, etc. Et bon, voilà, c'est une personne, comment dirais-je, qui a une certaine connaissance. Voilà. Et qui ne sont pas dans le panneau des récupérations politiques.
Ouais.
Tout simplement. Voilà. Donc, concernant les musulmans de France qui quittent la France, là, c'est un sujet très, très intéressant. Pourquoi ? Pour la simple raison que, bon, moi, j'ai une certaine génération. Et la problématique, c'est que, de toute façon, les musulmans. Alors, je dirais au départ, à la base, les particulièrement les Maghrébins et ensuite les musulmans, parce que il faut savoir que la France n'a pas la culture que les Anglais ont, du moins concernant les cultures étrangères. D'ailleurs, on peut constater au niveau de l'État britannique, l'islam ne pose pas de problème. Bien sûr qu'on a des partis politiques qui sont extrêmes, qui sont contre l'islam, mais généralement les musulmans sont très bien intégrés, hein, très très bien intégrés. En tout cas, ils ne rencontrent pas les mêmes problèmes que les musulmans de France rencontrent. Ceci dit, en France, ce que je veux dire, qu'aujourd'hui, la problématique, je ne pense pas qu'elle est liée directement aux musulmans, pour la simple raison, parce que de toute façon, en étant d'une génération... je suis né en 65 et nous avons toujours connu la discrimination, le racisme, bien sûr, avec différentes évolutions au sein de la société française. Mais je pense que aujourd'hui la problématique, elle est plus économique et géopolitique. Et effectivement, il y a toujours cette discrimination. Elle a toujours été existante. Elle évolue par moment, elle régresse par moment selon les gouvernements qui occupent la présidence. Mais c'est pas quelque chose de, je veux dire par là, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est cette nouvelle géopolitique et cette nouvelle économie mondiale. Nous avons ces conflits internationaux qui sont la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine, etc. Et nous avons quand même aujourd'hui une stabilité qui s'installe, en particulier en Afrique du Nord, le Maroc, hein, qui est très très bien développé, l'Algérie qui est très forte économiquement, c'est un pays qui n'a pas de dette. Hein. Et c'est un pays qui peut accorder des aides financières, crédit sans intérêt, crédit tout court, etc. Bah, effectivement, c'est très alléchant. Donc, effectivement, donc les gens qui sont diplômés aujourd'hui, quand on voit le climat politique et discriminatoire et raciste, hein, je dirais bien, pour pas insister, en France, écoutez, on émigre. Et d'ailleurs, les populations sont justement dans ce processus. Toutes les populations ont été dans ce processus d'immigration face à la sécurité, face au racisme, face à une politique, je dirais, très dure, etc. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais simplement, aujourd'hui, c'est au niveau de la génération. On a une génération qui est très jeune, effectivement, qui est diplômée. Et ben, écoutez, je suis désolé. Effectivement, et les pays, alors, ils ne vont pas tous au Maghreb, hein.
Non. Ce sont les États-Unis, l'Angleterre, justement, pour ça.
Oui.
Sa culture et sa...
Le Canada est très prisé aussi, c'est une destination. Le Canada, les autres pays d'Europe aussi, l'Angleterre, absolument. Oui.
Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la première raison économique, c'est-à-dire que les gens, ils savent très bien qu'aujourd'hui en France, si vous êtes ingénieur, et vous postulez, vous allez avoir du mal pour deux raisons essentielles. D'abord, on a ce qu'on appelle la crise économique. Et ensuite, on a la discrimination par rapport à votre religion, ou alors votre nom, etc. etc. Et on est même discriminé par rapport de son origine ou dans la commune dans laquelle on habite. Et il y a plusieurs discriminations à différents degrés. Mais par contre, aujourd'hui, si vous êtes ingénieur ou informaticien, ou je ne sais pas, même, je dirais, transporteur, on va dire un chauffeur de bus, vous savez, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, il y a une Australie, vous travaillez. Mais, donc, cette nouvelle immigration, elle est avant toute chose, elle est économique. Mais effectivement, il y a une réalité, c'est qu'il y a un parallèle qui est présent, c'est la politique qui est menée actuellement en France, qui est une politique discriminatoire et, je dirais, raciste, en particulier envers la région islamique musulmane, pour la simple raison, parce qu'on a un conflit, on a le conflit israélo-palestinien qui dure depuis 75 ans, pas d'hier. Je ne vais pas revenir sur le sujet, parce que le sujet, il est complexe, et je pense qu'il faut déjà avoir une culture par rapport à ce sujet pour comprendre certaines réalités. Mais les choses vont se faire, puisque actuellement, on a des mobilisations qui sont au niveau national, international, qui sont très intéressantes. On a quand même une instance qui est la CPI, qui est en charge justement de prouver qu'il y a un génocide au niveau de ce conflit, en particulier sur la ville de Gaza. Les choses sont en train de se faire. Il faut laisser le temps. Voilà. Et ce que je voulais dire par là, effectivement, la réalité économique. Parce que, je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui se sont rendus au Maghreb, en particulier en Algérie. Quand vous voyez qu'on a un pouvoir d'achat qui est considérable, quand vous voyez que le litre d'essence en Algérie, il est à 3,50 euros, 5 euros, 7 euros. Donc aujourd'hui, les gens qui ont un PQ ou les gens qui sont diplômés, si vous vous rendez au CPA Maroc, Tunisie, Algérie, au niveau salaire, vous n'avez pas perdu grand-chose. Pourquoi ? Parce que même si on a 30%, 40% de différence sur le salaire qu'on a en métropole en France, mais vous êtes gagnant au niveau du pouvoir d'achat,
déjà,
au niveau de la qualité de vie, et au niveau de cette tranquillité, de cette instabilité politique. Parce qu'en France, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a une instabilité politique qui perdure depuis un certain nombre d'années. Et c'est ce qui fait que les gens se sentent mal à l'aise. Parce que, écoutez, en France, vous tombez malade, vous faites un malaise dans la rue, les pompiers vont vous chercher, ce qui n'est pas comme aux États-Unis. Et aux États-Unis, on va vérifier d'abord si vous avez une mutuelle. Vous voyez ? Donc, la France, c'est un pays au niveau de ses services qui est, on va dire, stable, mais aujourd'hui, il y a une pénurie économique, financière et budgétaire. C'est ce qui fait le mal-être de la France. Vous voyez ? Et quand il y a un mal-être, automatiquement, on regarde son voisin. Et on regarde quel voisin ? Le voisin qui est différent de nous. Quelle culture différente, quelle couleur différente, et quel niveau différent. Le problème, il y en a. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas perdu leur temps. D'autant plus que le gouvernement actuel, il mène une politique qui est complètement, complètement à l'échec. À l'échec. La France est endettée, au lieu de trouver des solutions, et continue à investir dans des politiques régionales, internationales et géopolitiques qui sont totalement perdantes. Et on le voit au niveau international, on le voit. Donc, mais il y a des pays qui en tirent profit. L'Algérie en tire profit, le Maroc en tire profit, des pays du Sahel en tirent profit aujourd'hui. Vous voyez donc voilà. Donc je pense qu'il faut avoir un regard.
Il y a ce regard-là, mais ce regard. Si tu veux, on a du mal vraiment à le poser comme toi tu le décris et tu l'expliques parce que qu'on le veuille ou pas, ça va au-delà du souci du problème économique qui touche toutes les couches de la population, etc. Et peu importe leur origine, ça on le sait, c'est vrai. Mais bon, il y a eu des moments de crise pires que celle-ci et où on a fait avec, etc. Mais ce qui qui est dérangeant pour voilà, on l'entend et on le voit, et d'ailleurs c'est pour ça que cette étude a été mise en place, a été faite. Et eh bien oui, les musulmans sont plus discriminés que les autres, que d'autres, peu importe hein, qui hein. Oui. Par exemple, quand tu regardes et les médias dans un pays, c'est une arme redoutable. Regarde, écoute-moi bien. Par exemple, attends, quand tu entends certains intervenants sur certaines chaînes, et ça, on l'a dénoncé tout le temps ici sur notre chaîne, certains qui se permettent, mais on les voit le matin, moi, ça m'a donné des nausées, ça m'a rendu malade, comme beaucoup, quoi. Eh bien, on les entend parler. Aujourd'hui, je ne peux même pas. Je vais à la chaîne. Déjà, j'ai des bouffées de chaleur. Donc, qui se permettent en toute impunité de tenir des propos discriminatoires, vraiment, mais toujours à l'égard des musulmans. Mais c'était, il faut appeler un chat, tu vois. Mais en toute impunité, c'est terrifiant. Alors que d'autres peut-être pour moins graves, des propos moins, voilà, et qui vont se voir inquiétés. Enfin, on comprend plus rien.
Excusez-moi. Écoutez, ce qu'il faut voir, c'est quoi? Et justement, j'ai évoqué plusieurs paramètres. J'ai évoqué le paramètre national, le paramètre international, le paramètre géopolitique, etc.
Oui, oui.
Aujourd'hui, c'est quoi? Non, mais attendez, il y a quelque chose qui est très intéressant. Moi, je veux un exemple concret. Voilà. On a ce qu'on appelle la presse, on a certains présidents de journaux, de chaînes de télévision, qui mettent un programme en avant, c'est eux qui décident, et on a la réalité. Savez-vous que la fonction publique, le ministère de la Santé, il doit recruter sur les deux prochaines années 12 000 médecins algériens. Vous voyez ? Donc il y a des réalités. Et alors, il y a ce qu'on nous met dans la presse, la télévision.
Mais c'est important, la presse, les médias, la libération d'une parole qui est raciste à la télévision ou sur des réseaux, elle influe sur le reste, sur les actes, tu comprends, sur les comportements.
Il faut pas en tenir compte. Moi, quand
il faut pas en tenir compte. C'est quoi,
quand je vais à la boulangerie. Non, il y a une chose qui est réelle.
Moi, comment tu peux dire qu'il faut pas tenir compte? Quand matin, midi et soir.
Mais c'est la télé, il faut l'éteindre. C'est des conneries, vous racontez des conneries.
Mais ça. Non, mais d'accord, ok. Mais quand t'as des gens qui envoient des CV et que on. Voilà. Ou alors, même au niveau de leur travail, il y a un mauvais regard, c'est plus la même chose. Il y a des non-dits, il y a des propos, on se tait quand ils rentrent dans un bureau, etc. Eh ben, après la télé, quand t'éteins la télé, tu la regardes pas. Mais, ce que je viens de te dire, ça influe dans le comportement de la société, même au niveau, du travail, à tous les niveaux. Attends, ne pars pas, Morad. On a une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000. Et on précise bien que c'est pas la France qui est raciste, bien heureusement. Les lois de la République sont loin de l'être. Et que ce ne sont pas les Français. Malheureusement, il y a des personnes influentes parce qu'elles sont responsables à la tête de certains partis politiques ou alors certains médias également, alors qui maintenant sans complexe ils y vont. Vous voyez, il suffit pas de beaucoup, il suffit d'un nombre restreint pour mettre la zizanie, pour diviser et causer du tort, vraiment causer de la souffrance. Parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point il y a de la souffrance. Moi, j'ai des jeunes autour de moi. Je peux vous assurer que j'ai des jeunes autour de moi qui n'arrivent pas à évoluer, qui ont des diplômes, qui ont beaucoup plus de... qui ont des compétences, hein, vraiment, qui voient d'autres arriver, qui ont moins de compétences, etc., moins de diplômes. Mais voilà. Alors, quand on me dit, ouais, mais tu sais, mon chef, il a toujours eu des mots un peu, voilà, blessants. Alors, je sais bien qu'on bloque. Etc. On le dit. Donc, ils prennent leur mal en patience. C'est des jeunes qui sont bien éduqués, qui disent rien. Ils disent, bon, c'est pas grave, j'ai mon salaire à la fin du mois. Quand on entend des jeunes parler comme ça et se résigner, quoi, quelque part, et puis plus chercher à évoluer, écoutez, vous avez une larme qui coule au coin de votre œil. Ben oui, parce que vous dites pourquoi le pauvre Tu le vois, il se donne du mal, il se donne à fond, et on lui facilite, on lui demande, il demande pas à ce que la tâche lui soit facilitée, mais reconnu pour ses compétences, pour son intégrité, sa loyauté, ben non. Et ça existe. Ceux qui disent le contraire, ceux-là, ou alors ils sont, je sais pas, ils sont dans leur bulle, hein, ils sont dans leur bulle, ou alors il y a une hypocrisie, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Appelons un chat un chat. C'est terrifiant. Non, c'est vrai que c'est de pire en pire, quoi. C'est de pire en pire, et aujourd'hui, on le voit, et il y a trop de choses comme ça qui se passent et qui sont pas normales. Morad, tu pars pas, je prends Abdel, je te reprends juste après avec Faïza et Mess. Bonsoir Abdel.
Bonsoir Vanessa.
Bienvenue Abdel.
Merci beaucoup de m'avoir donné la ligne là.
Je t'en prie, bienvenue à toi.
C'est la première fois que j'appelle la radio en général.
D'accord. Ben écoute, bienvenue alors.
Et puis je vais pas te mentir, je commençais à m'endormir un petit peu, surtout avec Morad là.
Ah oui, Morad, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi.
Je suis d'accord avec lui.
D'accord, ok.
Je suis un peu d'accord avec lui, et je comprends pas comment... toi, vu les peu d'émissions que j'ai écoutées, que tu sois d'accord avec les gens qui veulent partir de la France.
Là, je sais pas que je suis d'accord. Je comprends, j'entends. J'ai pas dit je comprends. Je suis d'accord, mais je comprends. Je comprends. Quelqu'un qui n'évolue pas dans son travail pour son origine, ben si par ailleurs et que il a des opportunités où il va évoluer et qu'on va pas regarder ses origines, je l'encourage. Je lui dis oui, si tu trouves mieux, ben on est là pour partir. Même des Français, hein, s'ils trouvent mieux ailleurs, pourquoi pas? Ben oui, on est un peu nomades dans nos têtes. Mais il y a une étude qui a été faite là. Il y a une étude qui a été faite, et on n'a même pas besoin de cette étude qu'on le savait. Moi, je suis contente qu'il y ait eu cette étude parce que enfin, des gens, des chercheurs, hein, c'est des chercheurs, c'est pas des personnes comme ça qui sont réveillées un bon matin, et c'est des chercheurs. Donc voilà, c'est cette étude qui parle. Moi, je parle pas, je laisse l'étude parler. Voilà.
Moi, je suis complètement, mais à 100% pas d'accord, ni avec l'étude, ni avec
Madame Faïza,
ni avec Macamel, ni avec...
Bah, tu as de la chance, tu vis quoi, toi? C'est quoi, dis-moi? Comment ça se passe pour toi?
Ah, moi, franchement, j'ai un seul mot à dire, vive la France!
Mais on parle pas de la France, je viens de dire, on parle pas de la France. On parle d'une minorité visible, des partis politiques et des chaînes de télé qui influent, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça.
Après, moi, je
parle pas de la France. Bien sûr que la France, on l'aime.
On parle de la France. On parle de ces gens qui veulent partir, qui veulent quitter la France et aller habiter ailleurs, au Maroc, à Dubaï, aux États-Unis. Moi, je connais beaucoup de monde. Hein. Ouais. Je connais beaucoup de monde qui sont partis au Maroc, qui sont partis en Algérie, qui sont partis aux États-Unis, qui sont partis à Dubaï. Ils sont tous revenus.
C'est toi qui le dis. Ben, y en a qui partent là. Ils sont tous partis, ils sont revenus. Mais là, on vit une époque un peu particulière quand même. Hein. Donc tu peux pas me dire.
Partout il y a des racismes.
Abdel. Soyons réalistes. Je veux dire un musulman en France qui dit qu'il est musulman. Il y a des personnes que ça dérange et on le voit à la télévision. Tu regardes la télévision tous les jours un petit peu, les chaînes de télé, et tu vois pas ça, toi. Tu entends pas parler de musulmans qui sont stigmatisés, les foulards, les femmes en foulard, les machins, etc. Mais c'est pas normal qu'elles portent le foulard. Mais tous les jours on l'entend.
Oui, mais après.
Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Je suis pas du tout d'accord.
Moi je pars à l'étranger, j'entends pas. Excuse-moi, hein. Que ce soit à Londres, que ce soit en Espagne, que ce soit dans n'importe quel pays, en Suisse, en Suède, je l'entends pas. Les chaînes de télé là-bas, elles sont dans le respect des religions des autres. Il y a un problème que que ce soit aussi décomplexé, qu'on parle ouvertement aujourd'hui. Avant, faisait au moins attention. Aujourd'hui, pas du tout.
Moi, si on entend les propos des années 70-80, c'était pire. Jean-Marie Le Pen, il disait pire à la télé.
T'en avais un. T'en avais un qui était contre tout le monde. Mais à la télévision, sur les plateaux, tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les plateaux, t'as 5, 6, 7 personnes. Non, ça n'existe pas. Alors ça, tu vas pas me la faire à moi. Hein. La télévision, je la regarde depuis les années 60. Là,
Ces chaînes-là.
Ben voilà.
Ces chaînes-là. ces chaînes-là qui nous crachent dessus, ils sont...
Pas sur toi, parce que toi, apparemment, tu t'en sors bien.
Mais les...
Non,
ce que je veux dire, c'est que les gens, ils voient que au bout de leur pif, quoi, au bout de leur nez.
Mais c'est pas leur bout de leur pif. Ils regardent le futur de leurs enfants. Ils ont pas envie que demain leurs enfants subissent ce que eux subissent.
D'accord. Ils sont pas contents en France.
Pas qu'ils sont pas contents. C'est qu'on leur dit, vous avez plus votre place, on n'aime pas les musulmans. Pour certains, ils le disent. Je dis pas, c'est les Français. C'est pas la France, ça. La France ne dit pas qu'elle n'aime pas les musulmans. La France ne stigmatise pas. Le gouvernement français ne stigmatise pas. On parle de cette poignée qui sont dans les médias. Je suis désolé, ils existent. On les entend.
Mais ces médias, par exemple, ce qui se passe à Gaza.
Hein? Oui.
Mais ces médias, ils sont pro-israéliens. Il ne faut pas qu'on attende qu'ils vont être pro-palestiniens.
Abdel, tu es parti sur un sujet qui est hors sujet, là. Excuse-moi, hein. Écoute-moi. Tu es hors sujet. On ne parle pas d'être pro ceci ou cela. Chacun est pro ce qu'il veut. Je te le dis tout de suite. Hein. Chacun est pro ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci avec ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de politique. Là, il ne s'agit pas de parler de ce qui se passe, des événements qui se passent au Moyen-Orient. C'est trop complexe. Ça relève d'une politique qui est... c'est compliqué. Il faut avoir vraiment des intervenants qui soient calés. Moi, j'ai un collègue qui s'appelle Adil Farkan. Son émission s'appelle Les Informés, de 19h à 20h. Là, ok. Il y a des intervenants, des gens de tous bords, mais qui font que de la politique. Moi, je peux pas te répondre à ce niveau. Donc, moi, ce qui se passe au Moyen-Orient, je n'en parle pas. Voilà. Je soutiens toutes les victimes et je soutiens qui je veux, là. Voilà. Dans ma vie, dans ma sphère privée. Maintenant, là, ce que je dis, là, ce soir, en l'occurrence, on parle d'un livre qui, d'une étude qui a été faite, qui a été montée par 3 chercheurs et pas des moindres et qui dit des vérités. Et d'ailleurs, l'intitulé, c'est quoi? C'est La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Tu vois? Ben, eux-mêmes étaient étonnés de ce qu'ils ont trouvé. Tu comprends? Donc, il y a certains médias, je dis bien, c'est pas la France, certains médias qui, malheureusement, stigmatisent les musulmans. Et c'est une vérité. On entend, avant les événements du 7 octobre, on entendait parler des femmes des foulards. Les femmes des foulards, jusqu'à ce que les femmes en foulard, à force que les médias, parce qu'il faut arrêter de dire, faut pas regarder la télé, faut pas. Mais dans la rue, ces femmes sont en danger. Il y a des femmes, dernièrement, il y a une jeune marocaine avec laquelle d'ailleurs Fatima Saïdi, j'aimerais bien l'inviter, je suis en contact avec elle, eh bien, que vous avez dû voir dans justement à la télé, c'est une jeune marocaine qui vit en Suisse, je crois, et à Madrid. Et donc, elle est venue en tant que touriste en France. Elle est venue avec son appareil photo, elle était à la Tour Eiffel, elle était contente, avec une copine, elle prenait des photos. Cette jeune femme, qui ne demandait rien, et un individu passe à côté d'elle, et il lui crache sur son hijab. C'est pas normal, ça, quand même. Il lui crache dessus, sur son voile, il va cracher dessus. Et elle est partie vers lui parce qu'elle était complètement affolée. Elle est partie lui dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous faites ça, monsieur? Poliment en plus, parce qu'elle l'a filmé. Et lui qui lui recrache dessus en lui faisant un doigt d'honneur. Tout ça parce que ces gens-là regardent les médias. Comme quoi, les médias, ça peut être aussi déclencheur de ce genre de comportement. C'est ce qu'on est en train de dire. Moi, je parle pas de politique. Maintenant, Moyen-Orient, j'en parle pas. C'est pas mon domaine. Mais les musulmans en France, par une certaine minorité, ils sont stigmatisés. Et cette jeune marocaine, Fatima, elle a 25 ans. Elle est représentative des femmes qui portent le voile. Parce que elle en a parlé. C'est une youtubeuse. Attends, c'est une blogueuse ou youtubeuse, je sais pas comment on dit. Donc elle filme, etc. Elle a sa communauté de youtubeurs, etc. Enfin, qui la suit. Donc elle a eu la possibilité de, voilà, cette visibilité. Elle en a parlé. C'est comme ça qu'on l'a su. Mais combien de femmes qui sont des femmes lambda? Voilà. Des mamans, des sœurs, des femmes normales, quoi, qui travaillent, qui n'ont pas la possibilité d'avoir une visibilité, qui sont pas sur les réseaux. Et on leur crache dessus, ces femmes, parce qu'elles portent le voile. Si tu dis le contraire, c'est que vraiment, t'es pas dans cette, je sais pas. Ça n'a jamais existé, Abdel. C'est très grave, ce qui se passe.
Oui, c'est très grave.
Bien sûr. Mais c'est ce genre de personnes qui veulent partir, tu vois. parce qu'il y a un ras-le-bol, parce qu'elles se sentent pas protégées.
Je sais pas, moi, je comprends pas pourquoi ces gens, ils voient que le ras-le-bol, ils voient que...
Quel ras-le-bol ? Tu te fais cracher dessus, tu te fais insulter à longueur de temps, tu dis ras-le-bol, t'es dans ton travail, tu peux pas évoluer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plafond de verre et tu dis, tiens, on va prendre Faiza avec nous.
Ouais, moi, je comprends pas les gens qui...
Et le baisse. Ah, bon, on va prendre avec nous, on va voir.
Après, c'est compliqué de parler
On a Pascal, Pascal, on la prendra après. Pardon ? Non, c'est pas compliqué, tu peux parler, Abdel, on va faire un débat.
C'est un peu stressé quand même, c'est un peu stressant.
Non, c'est pas... Ah oui, c'est la première fois. Non, t'inquiète pas, c'est pas stressant.
J'arrive pas à trouver les mots exacts.
Ah non. Non, ça fait presque 10 minutes, tu as trouvé les mots exacts.
Bon, par exemple, le fait divers qui s'est passé à Strasbourg, la femme voilée qui est rentrée et qui s'est filmée en face du vendeur, en face du monsieur qui avait un...
Ça n'a rien à voir.
Mais
en fait, à un moment donné, mais ça c'est un autre sujet. Tu parles du magasin.
Abdel. Écoute un peu. Tu dis c'est pas bien ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est bien aussi? Est-ce que c'est bien de, à chaque fois de stigmatiser les femmes qui portent le voile? Est-ce que on regarde pas les gens? Peut-être cette femme, elle est. Je sais pas. Je parle pas d'elle spécialement. Je la connais pas. Les femmes qui portent le voile. Elles sont pas moins compétentes. Le voile n'empêche pas la qualité du travail qu'elles peuvent apporter.
Non pas, c'est son magasin, il fait ce qu'il veut.
Je suis d'accord avec lui, ça c'est vrai, il a raison. Mais là, par exemple, il y a une vidéo qui tourne. Attends. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur Insta. Je sais pas si tu l'as vue.
Malheureusement, Faiza. Malheureusement, tout le monde filme tout le monde maintenant. Maintenant, on vit dans un monde où tout le monde filme tout le monde. C'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs. Si elle l'avait pas filmé, peut-être que lui, il avait une caméra à l'intérieur. Tout le monde filme tout le monde. Il y a des caméras partout. On vit dans un monde, tu sais, on vit dans le virtuel. Alors Faiza, je te laisse avec Abdel.
Oui, je disais qu'il y avait une jeune fille qui rentrait dans une boulangerie. Là, elle tourne en ce moment. Et bien, donc il est 7h du matin, elle a juste acheté un pain au chocolat, elle est voilée. Et il y a un monsieur qui dit, je n'en peux plus, en boucle. Elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? Je n'en peux plus de vous voir avec vos voiles, je n'en peux plus. Elle rentre dans une boulangerie, elle achète juste un pain au chocolat.
C'est du racisme, ça elle peut porter plainte. J'ai pas dit
mais on s'en fiche de porter plainte, c'est pas ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, on parle de l'ambiance actuelle. Tu dis, je ne comprends pas pourquoi les gens y partent. Eh bien, c'est pour ce genre de choses qu'ils partent. C'est pas qu'ils se sentent pas bien en France. On aime tous la France.
Bien sûr.
C'est juste qu'à un moment donné, on est obligé de se justifier. Parce que elle porte le voile, parce que moi je porte pas le voile, parce que moi je suis une musulmane, parce que à un moment donné, je tape quoi.
Faut savoir où aller, savoir où marcher.
Bien sûr, mais pourquoi? Mais ça n'a rien à voir de savoir où aller. Moi j'habite en région parisienne, arrête, j'habite en.
Mais savoir où aller, j'ai pas trop compris.
Ça n'a rien à voir.
On a Metz avec nous.
La campagne à Paris où c'est partout pareil.
On a arrêté. Abdel, attends deux minutes, on a Metz.
Arrêtez les œillères par contre, Abdel.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va monter des murs à Paris, alors autour de Paris. Hein. Alors là, franchement, Abdel. Franchement,
c'est un peu vieux quand même, les gars.
Metz, on a Metz avec nous de Paris. Oui, bonsoir, Metz. On est avec Faiza et Abdel.
Bonsoir, Vanessa, comment vas-tu?
Ça va, ma chérie, bienvenue. On est avec Faiza et Abdel.
Le débat est très bleu.
Attends, je voudrais juste poser la question, Abdel. Tu fais quoi dans la vie, Abdel?
Moi, je suis fonctionnaire et tout va bien.
Mais moi aussi, tout va bien dans ma vie aussi.
Quand je veux prendre l'Aïd, on me donne l'Aïd. Quand je veux prendre un bal, on me donne un bal.
Ah bah t'as de la chance.
C'est-à-dire, excusez-moi. C'est-à-dire, on vit dans un monde, mais alors? C'est-à-dire, moi, je suis bien. Ceux qui sont autour de moi, ben, si on les stigmatise, on leur crache dessus, c'est pas mon problème, parce que moi, Abdel, sache une chose, que moi, je travaille dans une radio, moi, je suis pas stigmatisée, la vérité, rien du tout. Tout se passe très bien. Mais je suis malade, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand j'entends autour de moi qu'il y a des gens qui sont en souffrance, ben, si tu veux, j'ai de l'empathie, mon humanité qui se réveille et ça va pas. Parce que ça me fait mal. Je porte pas le voile, mais une femme qui porte le voile, eh ben, ça me fait mal au cœur qu'on lui crache dessus. Excuse-moi.
Je serais le premier à péter un plomb. Mais ce que je veux dire, c'est que faut savoir comment dire. Faut savoir bien trier les choses. Faut savoir. Par exemple, les gens qui vont partir. Par exemple, je vous donne un exemple.
Oui.
Quelqu'un qui en a marre d'ici. Il veut vivre sa religion, par exemple, au Maroc. Qu'il assume. S'il va au Maroc.
C'est même pas sa religion. Ils veulent vivre tranquille. Les gens, on a toujours vécu notre religion. C'est qu'il y a des gens, ils t'intéressent.
Ce monsieur, il veut aller au Maroc. Ce monsieur, il veut aller au Maroc en famille avec ses enfants. Il veut aller au Maroc. Faut qu'il assume. Il veut aller au Maroc.
Oui, aller au Maroc. L'autre, il veut. Comment, je sais plus qui, Driss, au Canada.
Par exemple, il vient ici, il va faire naître son enfant à l'hôpital ici. Vous comprenez ce que je veux dire?
Quoi?
Si tu veux vivre au Maroc, tu vas vivre 100% au Maroc. Si tu veux vivre à Dubaï, tu vas vivre 100% à Dubaï.
Mais les gens, merde, Del, de quoi tu parles? Mais les gens, quand ils partent, ils vivent là-bas, ils ont des enfants là-bas. T'as Driss qui part, par exemple, au Canada. Eh ben, il part au Canada, il va vivre au Canada. Redouane, il part au Maroc, il va vivre au Maroc.
Non, il y en a plein qui, quand ils se barrent, ils laissent un pied en France et un pied.
Ah, mais toi, t'es plein de clichés dans ta tête, hein. Oh, dis donc. Ah, t'es plein de clichés, Abdel.
Vanessa, faut ouvrir ses
yeux. Un pied. Mais comment tu sais qu'ils ont un pied? T'as regardé leurs pieds? Moi, j'ai pas regardé leurs pieds.
On a tout, on connaît.
Mais encore.
Elle est partie vivre en Europe, elle est tombée malade, elle est revenue en France.
Mais ça n'a rien à voir à l'époque de ta mère et de ma mère et de ma grand-mère. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont des diplômes, ils veulent travailler. Et puis, si on leur barre la route, ben, ils essayent de voir là où ils peuvent respirer. Ils ont raison.
Faut se battre.
Faut se battre. Oh ben non. On n'a qu'une vie, hein.